Merci Antoine, on se retrouve dans une demi-heure. Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité des idées, une émission très Noël puisque sera question des lumières, comment l'éclairage urbain a pu façonner à coup d'innovation technologique la vie sociale. Cette question fait l'objet d'un documentaire et d'un livre tous deux signés Agnès Beauvais-Pavie. La réalisatrice restitue 4 siècles d'histoire, de la lampe à huile aux écrans LED qui illuminent nos villes. Les jeux d'ombre et de lumière se révèlent bien plus qu'une simple préoccupation esthétique, une question politique de contrôle, de sécurité et de liberté. Agnès Beauvais-Pavie sera notre invitée à 12h55 avec le philosophe et urbaniste Thierry Paco pour y voir plus clair. Mais avant cela, on va voyager dans le temps avec les fantômes du passé, du présent et du futur. Il ne s'agit pas d'une nouvelle adaptation de Charles Dickens, mais du dernier film d'animation de Mamoru Hosada. Le réalisateur japonais des Enfants Loups, Ameyuki et du Garçon et la Bête revient avec un conte enchanteur, Mirai, ma petite sœur, une histoire à hauteur d'enfant qui sort en salle ce mercredi.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Kun, c'était ta maman? Elle arrive.
Je te présente ta petite sœur. Elle s'appellera Mirai, ça veut dire l'avenir.
Tu seras gentil avec elle. Tu la protégeras.
Comment j'étais quand j'étais bébé?
T'étais comme Mirai?
Je l'aime pas.
Ne la tape pas! Je t'ai dit d'être gentil avec elle.
Maman!
Grand frère, arrête de me mettre des trucs sur la figure. Tu me tapes dessus, tu me tords les joues, tu me fais pleurer.
Tu es Mirai de l'avenir.
Pourquoi t'es pas gentil avec maman?
Je vais te dire exactement ce que tu ressens en ce moment. Tu es jaloux, c'est tout.
Vous êtes qui?
Je suis le prince, mon cher.
Je veux aussi faire de mon mieux pour élever mes enfants. Et tout ce que je fais, c'est m'énerver après eux.
Tu aimes plus Mirai que moi. C'est vraiment pas juste, j'en ai assez.
Vous déteste tous!
Bonjour, Mamoru Hosada.
Konnichiwa, Hosoda Mamoru desu. Nihon kara kimashita.
Bonjour, je suis Mamoru Hosoda, je viens du Japon.
Je salue aussi Shoko Takahashi qui assurera la traduction de vos propos. Mirai, ma petite sœur, c'est donc l'histoire d'un petit garçon, Kun, qui a du mal à accepter l'arrivée à la maison d'un nouveau bébé, un bébé qui va lui voler l'attention exclusive de ses parents. Entre deux crises de colère, il va se réfugier dans le petit jardin de la maison, un jardin où il voyage dans le temps, à la rencontre des membres de sa famille, passé et futur. Il suit cet itinéraire généalogique, découvre que sa mère aussi a été une enfant turbulente, son grand-père un héros, que sa petite sœur du futur est plutôt gentille. Et surtout, il part à la rencontre, comme le dit la Mirai du futur, de ces moments fugaces qui, mis bout à bout, nous ont créé et font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un film qui s'inscrit, Mamoru Hosoda, dans la lignée de vos deux films précédents, Le Garçon et la Bête et Ameyuki, Les Enfants Loups, en s'intéressant à l'enfance comme moment où on construit véritablement son identité. La famille, c'est un sujet inépuisable pour vous?
はい、そうですね。ずっとね、やっぱり自分は身近なものを題材に作品を作っていますね。
Chaque fois que je fais un film, je suis toujours inspiré par ce qui m'entoure, donc de ma vie quotidienne. Lorsque j'ai réalisé Samarose, en fait, c'était juste après le mariage. En épousant ma femme, j'ai eu l'impression d'avoir donc 2 fois plus de famille, donc parce que la famille de ma femme est devenue la mienne. Donc c'est cette famille qui m'a inspirée. Pour le film Mirai, ma petite sœur, c'est la naissance de ma fille qui m'a inspirée. Évidemment, mon fils est devenu modèle du personnage principal.
僕にとってもすごく大きな影響を与えて、それでこうやっぱりこう映画を作ろうっていう映画を作るに与え
たっていう。Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie m'a beaucoup inspiré.
Et alors vous choisissez en effet à partir de cette expérience personnelle de vous arrêter sur ce moment très précis où une enfance bascule, ce moment où évidemment un second enfant arrive dans la maison. Qu'est-ce qui vous a frappé à titre personnel et pourquoi est-ce qu'il fallait en faire un film ?
るまでのその気持ちがあったのか。
そうですね。これはやっぱりね、こう、やっぱ妹ができて上の子がこう非常にこう荒れたんですね。やっぱりその両親の愛を奪われて。
Lorsque ma fille aînée, mon fils est devenu grand frère de sa petite sœur. Et à ce moment-là, mais il a énormément souffert parce qu'il se sentait vraiment privé d'amour, de tout l'amour de ses parents. Donc, il a beaucoup souffert. Et ça paraissait presque pathétique et pitoyable. On pouvait prendre cette attitude d'un enfant comme quelque chose de qui n'avait pas d'importance. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose de très unique. Universel dans son attitude, parce que les adultes ne peuvent pas se permettre de se comporter comme ça, parce qu'ils sont civilisés, mais au fond, ils se sentiraient exactement de la même manière.
教育を受けてね、社会的な人間として振る舞ってるけど、一皮むけば。
Et donc, cette attitude donc de la jalousie, de la souffrance à cause de l'arrivée de sa petite sœur est quelque chose d'universel. Et mon fils était vraiment... n'avait aucun pouvoir pour se contrôler. Et j'ai bien compris que les êtres humains ne peuvent pas vivre sans amour.
Oui, c'est très important parce que votre film est vraiment Mamoru Hosoda à hauteur d'enfant et face à cette forme d'indifférence parfois des adultes évidemment qui sont occupés par tout un tas d'autres choses, il est important pour vous de parvenir à se mettre à la place des enfants, d'arriver à capter peut-être ce qui fait l'essence et vous le faites à travers une formule qui revient à plusieurs reprises dans le film. Il y a une première fois pour tout. Et c'est véritablement ce qui guide votre film, c'est-à-dire cette recherche toujours des premières fois.
はい、そうですね。やっぱり例えばこの映画って例えば4歳の男の子が主人公ってことで、もしも映画が人生を描くものだったら4歳の男の子っていうね、まだ人生を。
Alors c'est vrai qu'il y a la phrase, il y a la première fois pour tout, plusieurs fois dans le film. Alors Mirai, ma petite sœur, est un film qui parle de l'histoire d'un enfant de 4 ans. Alors pour un enfant de 4 ans, on peut imaginer qu'il n'a rien vécu encore dans sa vie, il n'a aucune expérience, mais dans ce film, à travers le voyage donc avec le père, avec le grand-père, l'arrière-grand-père, donc à travers tous ces voyages-là, il apprend la vie. Donc ce voyage, en fait, est un grand pas en avant. Donc pour lui, donc c'est un pas, mais quand on parle de pas ou la le premier pas ou la première fois de quelque chose dans la vie, on peut tout à fait dire la même chose pour les adultes. Les enfants apprennent, ils progressent, mais les adultes aussi. Quand on devient père ou mère, on est débutant en tant que parent. Et donc finalement, pendant toute la vie, on apprend des choses, on vit des choses nouvelles, et ça n'a pas, il n'y a pas de rapport avec l'âge. Et donc il y a toujours la première fois pendant toute la vie.
On va en reparler de ceci, Mamoru Hosoda, mais il y a un point qu'il faut aborder aussi quand on parle de ce film Mirai, ma petite sœur. On a parlé de la cellule familiale, des individus, mais c'est aussi un regard sur une certaine forme d'évolution de la société japonaise, comme dans cette discussion entre les parents de Kun.
C'est super bon, j'adore.
Tu crois vraiment que je suis capable de m'occuper d'elle à ta place ?
Tu dis ça parce qu'elle refuse de boire son lait ?
Oui, et quand je la prends dans mes bras, elle arrête pas de pleurer. Alors que quand c'est toi, elle arrête tout de suite.
Je comprends, mais tu t'attendais à quoi ? Hein ? Tu t'es jamais vraiment occupé de Kun ?
Oui, je m'étais enfermé dans le travail.
C'est vrai, mais c'était aussi pour fuir ma mauvaise humeur.
Je crois que je suis nul comme père.
J'ai toujours été persuadée qu'un homme ne pouvait pas s'intéresser à un bébé.
Ah, moi je commence à m'y intéresser.
Hein ? Tu te fiches de moi, c'est ça ?
Non, non, je t'assure. Ça m'intéresse vraiment maintenant. Ça m'intéresse, ouais. Regarde comme je suis à fond.
J'ai un peu l'impression que tu me fais marcher.
Oh.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je crois que je viens d'avoir une bonne idée. Alors ?
Ouais, c'est bien.
Oui, c'est un peu l'idée de direction.
C'est vrai, j'aime bien.
Le père de Kun et Mirai est architecte. Il a longtemps privilégié son travail, obsédé par sa carrière. Mais pour l'arrivée du deuxième enfant, donc de la petite sœur Mirai, il décide de rester à la maison, de se mettre en freelance. Et c'est sa femme qui, elle, retourne assez vite au travail et privilégie sa carrière en quelque sorte. Et on a là quelque chose qui se noue évidemment, Mamoru Hosoda, qui est de l'ordre de l'évolution de la société japonaise, comme des sociétés occidentales également, qui est le rôle que chacun peut trouver dans cette nouvelle répartition autour de la famille, de la fonction de père et de la fonction de mère. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui est de cet ordre-là dans la société japonaise, ou est-ce que vous faites preuve d'optimisme en l'occurrence ?
そうですね。やっぱりこういうなんかジェンダーロールの逆転というかね、こう非常に伝統的な関係で言うと、お父さんは外に働きに出て、お母さんは、ね。
Dans le film, c'est vrai que les rôles sont renversés par rapport à la tradition. La mère, normalement, donc, elle est censée rester à la maison pour faire les ménages, et le père est censé travailler à l'extérieur. Et très souvent, quand on parle du Japon, de la société japonaise à l'étranger, c'est vraiment ça l'image qu'on a de la société japonaise. Et dans le film, donc les rôles sont renversés. La mère travaille à l'extérieur et le père reste à la maison. Mais en fait, on me pose souvent la question comme quoi est-ce que donc ça c'est possible dans une société traditionnelle comme celle du Japon. Mais en fait, ce n'est pas, enfin, ça se passe réellement comme ça. Donc pour moi, c'est ni le souhait que j'ai pour cette société ni le message que je voudrais passer. C'est juste j'ai décrit la société d'aujourd'hui telle qu'elle est. Je pense que la société a beaucoup changé. Lorsque je réalisais le film Les Enfants Loups, on voyait donc dans la ville des pères qui portaient les bébés. On les voyait parce que c'était rare. Au Japon, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit si voyant, c'est-à-dire que c'est devenu tellement banal qu'on fait plus attention aux pères qui portent les bébés. Et avant, on pensait que l'éducation était l'obligation des parents. Mais aujourd'hui, je pense que les jeunes couples, les jeunes parents prennent le plaisir d'éduquer les enfants et de s'occuper des enfants.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
もうありはしない遠くを見つめて歩き出せ少しずつでも心の中には君の好きな汽車がたくさん待ってだからほら耳をすまして体を揺らすのさときめきと不安が混ざり合うその度に君はほんの少し大きくなる今夜もミュージック小さなパーティーやってくるよ君のために走るよミュージック君へのラッキー笑いあって抱きあって幸せにほらなれる。
Notre invité aujourd'hui est le réalisateur japonais Mamoru Hosoda, dont le dernier film, Mirai, ma petite sœur, sort mercredi. en salle. Votre film Mamoru Hosoda se passe presque exclusivement en huis clos dans cette maison d'architecte qui est celle dans laquelle vivent Kun et Mirai. Parlez-nous de cette maison qu'on voit dès le début du film en plongée, cette vue aérienne de la ville japonaise où se déroule le film. Et c'est une maison qui détonne parce que c'est une maison moderne dans un environnement assez de maison un peu plus traditionnelle. Vous avez travaillé avec un architecte. Comment est-ce que vous l'avez imaginé, cette maison où on retrouve des chaises de Jean Prouvé, une bibliothèque ou des livres sur l'architecte Zaha Hadid, par exemple, sont visibles?
C'est vrai que la maison qu'on voit dans le film est assez étrange. Il n'y a pas vraiment d'étage. Et moi, j'appelle cette maison donc la maison de pas, c'est-à-dire il y a quelques pas d'escalier entre les niveaux. Il n'y a pas du tout de mur dans cette maison, donc qui sépare les pièces. Tout en bas, il y a la chambre d'enfant, ensuite la cour, et puis la salle à manger, et le salon, et la chambre, tout en haut. Donc c'est une étrange maison, c'est vrai. Et j'ai travaillé avec un architecte qui s'appelle Makoto Tanijiri. Et normalement, pour ce type de décor, on travaille avec les décorateurs de cinéma. Mais j'ai décidé de travailler avec un architecte. Pour un enfant de 4 ans, la maison représente tout l'univers. Et donc, il lui fallait montrer son univers, donc sa maison, de manière conceptuelle. Et c'est pour ça que je voulais enlever tous les murs pour qu'on puisse avoir la vue d'ensemble de la maison. Et c'est pour ça que ce sont des petits pas qui séparent les pièces. Et en plus, ces pas-là peuvent très bien symboliser et les progrès que Kun va faire, parce qu'il va faire des progrès pas à pas.
Oui, cet univers qui l'occupe petit à petit, Kun, avec ses rails et ses trains dont il est absolument passionné. Vous l'avez dit, cette maison, c'est son univers. Ça pourrait presque être un symbole aussi de cet univers un peu fermé, un peu clos, qui est celui de la petite enfance, mais qui est un univers aussi qui est parfaitement ouvert par l'imagination de Kun qui va se déployer dans cette cour, ce petit jardin qui sépare la chambre d'enfant du salon. Est-ce que vous trouvez justement Mamoru Hosoda dans l'animation, d'ailleurs plutôt que dans le cinéma en prise de vue réelle par exemple, cette possibilité de jouer avec l'imagination des enfants, cette imagination qui est aussi leur réalité en définitive?
そうですね。これはね、例えばやっぱりその、まあ、子供がどういうふうに世界を見てるかっていうふうなことをね。
Je m'intéresse beaucoup à montrer comment les enfants voient le monde. Alors, vous avez un peu parlé de train, donc dans le film, le train est un élément très important pour les adultes. Le train signifie un moyen de transport, donc on pense au prix du ticket, on pense aux stations où on prend le train, donc c'est simplement un moyen de transport. Alors que pour les enfants, le train signifie complètement autre chose. Il peut signifier quelque chose comme grande force, grand pouvoir, ou sinon comme tunnel qui amène les gens dans un univers complètement différent. Ou un moyen de transport, mais pour aller dans un monde terrifiant, comme on voit dans le film. Et donc, pour les enfants, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Et pour les adultes, ça paraît comme un monde imaginaire. Et finalement, c'est la réalité de la vision des enfants. Donc, je voulais montrer la différence de vision du monde entre les enfants et les adultes. Et je trouve que ce que les adultes trouvent fantastique ou imaginaire est complètement la vie réelle des enfants.
Arrête de me mettre des trucs sur la figure. Mais t'es qui? Tu me tapes dessus, tu me tords les joues, tu me fais pleurer. Mais bon, passons, c'est pas grave. Pour l'instant, le vrai problème, c'est ça. Oh, tu es Mirai. Mirai de l'avenir. Regarde pas. Je perds un an pour chaque jour qui passe. Vu comme ça, une année, on se dit que c'est pas grand-chose. Mais si on fait pas attention, ça peut vite faire beaucoup, et là, c'est grave. Qu'est-ce qui va se passer? Si on attend trop, je ne pourrai jamais épouser l'homme que j'aime. Oh. Hé, qu'est-ce que tu fais?
C'est qui l'homme que tu aimes?
Non, mais là, je parle de l'avenir très lointain.
Ah oui, vous allez faire une course, non, et puis vous allez
non,
vous marier.
Mais non, mais c'est pas du tout ça, n'importe quoi. Allez, va dire à papa de ranger les poupées.
Non.
Pourquoi?
Parce que moi, j'aime pas Mireille.
Mais pourquoi, enfin?
Je sais pas, elle m'énerve.
Écoute, on peut pas attendre. Il faut que tu m'aides. Moi, je peux pas lui demander.
Pourquoi?
Allez, grand frère, tu vas pas me laisser tomber.
Je suis pas le grand frère de Mireille.
Bon, très bien, très bien.
Je vois.
Puisque tu refuses de faire ce que je te demande si gentiment, on va jouer à la petite abeille.
La petite abeille? Tu tortilles un peu des fesses, puis tu voles à droite, à gauche.
Mm-hmm.
Pique, 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 pique.
Alors, tu veux bien m'aider?
Dis, tu me le fais encore une fois.
Hmm?
La première rencontre de Kun avec Mireille, sa petite sœur, mais la Mireille de l'avenir. Mireille qui vient lui demander de ranger les poupées de l'empereur et de l'impératrice sorties pour la fête des filles, cette fête rituelle à laquelle la mère ne croit pas vraiment, mais qu'elle fait quand même. On voit là qu'il y a aussi dans votre film amoureux cela, ce questionnement hein, sur le rôle des traditions qu'on respecte sans forcément y croire. Sauf que la tradition veut que si on ne range pas les poupées tout de suite, la fille mettra chaque jour des passés. C'est un an de plus à trouver un mari. Et ça, évidemment, ça inquiète énormément Mireille de l'avenir. Il y a, on l'a entendu à la fin de cet extrait, ce son presque de forêt vierge. Il y a un rôle important donné à la nature, symbolisé par cet arbre qui est au milieu du jardin, qui se transforme en nature absolument luxuriante dans l'imagination du petit Kun. C'est important aussi, cette question du lien à la nature. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent hein, dans les mangas, soit ceux de Miyazaki ou les vôtres, Mamoru Hosoda, et encore plus aujourd'hui, évidemment quelques années après la catastrophe de Fukushima.
そうですね。非常にこう、やっぱり、作品、映画を作る上で、この自然をどう描くか。
Pour moi, montrer la nature est très important. Donc, chaque fois, je me demande comment je peux décrire, je peux montrer la nature au cinéma. Dans le film, donc, il y a la cour de la maison, dans laquelle on trouve la nature. Donc, on trouve l'arbre, des herbes. Et là, au moment où donc on vient d'écouter l'extrait de l'arrivée de Mireille de l'avenir, à ce moment-là, je voulais accentuer le côté très vital de personnage de Mireille. Et c'est pour ça que j'ai mis les plantes de la forêt tropicale. Et c'était important donc de montrer ce côté très très énergique de Mireille. Je voudrais parler aussi de l'arbre. Qu'on trouve au milieu de la cour. Donc, c'est une chêne qui représente l'arbre généalogique. L'arbre vit plus longtemps que les êtres humains. Et je trouve que tous les arbres regardent, observent la vie humaine. Après l'accident à Fukushima, cette terre donc à Fukushima est devenue inhabitable. Mais finalement, il y a des arbres qui nous observent, qui observent surtout la bêtise humaine. Donc cette notion donc de la nature des arbres, je pense qu'on a tous au Japon, non seulement les créateurs comme Miyazaki ou moi, mais d'autres personnes aussi. Et je pense que oui, la nature est très importante.
Je voudrais terminer cette émission, Mamoru Hosoda, en vous posant une ou deux questions peut-être sur l'état de l'animation au Japon aujourd'hui, de la production de films animés. Ce sont des films qu'on voit ici, évidemment, en France. On voit aussi un autre type de production. Vous avez été, dans vos jeunes années, animateur à la Toei, qui est ce studio qui produit aussi des films qu'on a pu voir, que ce soit dans les années 80 au Club Dorothée, mais jusqu'à aujourd'hui également. Et je voulais vous demander quel a été l'état aujourd'hui de cette animation? Parce que vous avez créé votre propre studio, le studio Shizu, vous êtes un peu émancipé comme ça de peut-être aussi, vous avez, on l'a parlé de Hayao Miyazaki, connu hein, des studios Ghibli, vous êtes un peu émancipé de ce patronage évidemment très très lourd de Miyazaki. Quel est l'état de cette production de films animés au Japon, qui est aussi évidemment entre des productions très standardisées comme celle de la Toei et des productions beaucoup plus créatives comme celle que vous proposez avec le studio Shizu?
そうですね。まあ僕自身は日本のアニメーションの世界の中では結構やっぱりこう特別なことをね、僕らのスタジオはやってるかもしれないので、一概に僕の言うことが、
peut-être l'animation japonaise ou l'industrie de l'animation japonaise est quelque chose de particulière dans le contexte mondial。
っていうのはやっぱりこう日本のアニメ、
quand j'étais petit, l'animation était destinée aux enfants。
世界だったと思うんですよね。
Donc c'était un cadeau à offrir aux enfants. En tout cas, l'animation contribuait à la vie des enfants. Mais depuis quelque temps, ça a beaucoup changé. Tous les studios créent des animations destinées aux jeunes adultes ou aux adolescents, ou aux connaisseurs ou aux amateurs de l'animation.
Il y a beaucoup de studios qui ont pensé à une telle époque, n'est-ce pas ? Et par rapport à ça, moi-même,
Et moi, j'ai un peu de doute pour cette tendance. Je pense que l'animation a beaucoup plus de potentiel. Il faut que l'animation soit adressée à tout le monde, des enfants aux personnes âgées. Et donc, il ne faut pas juste cibler ces publics des adolescents et des jeunes adultes. L'animation peut tout à fait être au même niveau que le cinéma, donc tout court. On peut avoir une qualité, vraiment une très bonne qualité cinématographique. Donc c'est vraiment un essayant de faire ce type de film que j'ai créé le studio et que j'essaie de faire.
Merci beaucoup Mamoru Hosoda d'être passé par la grande table. Mirai, ma petite sœur, ça sort mercredi 26 décembre en salle. Et merci à Shoko Takahashi qui a assuré la traduction de vos propos.
Merci beaucoup. Donc le film sort le 26 décembre. Je vous souhaite une bonne projection.